Tim Morel, bonjour.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. La bataille de Kiev est-elle imminente? Un convoi russe de 60 km de long s'approche de la capitale ukrainienne selon des images satellites. On les analysera ensemble dès le début de ce journal. Tandis que dans les pays voisins de l'Ukraine, le flot des réfugiés ne cesse de grossir. Nous serons en Roumanie. La Roumanie où sont aussi attendus des soldats français pour protéger la frontière. Emmanuel Macron s'adresse ce matin aux armées dans un rare message solennel. Il appelle les militaires à la vigilance sur tous les théâtres d'opération. La guerre en Ukraine, ses conséquences économiques en France. On en parle avec vos invités, Jérôme, à 8h20.
Oui, avec le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, François Asselin, et l'économiste Élie Cohen, invité du grand entretien de la matinale. Vous leur posez vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Au sommaire aussi, le coup d'envoi du contrat engagement jeune pour raccrocher les plus éloignés de l'emploi et des formations. Delta plus Omicron, certains sont contaminés par les deux variants du Covid, premier cas repéré en France. Et une enquête inédite sur Pétain, son parcours, son retour aussi dans les débats actuels. Un podcast et un livre sortent ce matin.
France Inter.
Hier, c'est Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, que l'armée russe a visé et bombardé une bonne partie de la journée. Ce matin, les yeux sont plutôt tournés vers la capitale. Kiev sera-t-elle la cible du prochain assaut dans les toutes prochaines heures? Ça pourrait être un tournant, une deuxième phase dans cette offensive jusque-là poussive pour la Russie. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour, bonjour à tous.
Ce matin, des images inquiétantes nous parviennent, des images satellites d'un gigantesque convoi militaire russe aux portes de Kiev.
Ah oui, c'est un convoi impressionnant puisqu'il fait plus de 60 km de long et que sa tête se trouve à seulement 25 km de la capitale. Elle se trouve tout près de l'aéroport. À titre de comparaison, c'est comme s'il y avait des chars à Orly près de Paris. C'est un convoi impressionnant également parce que les blindés et véhicules sont positionnés à deux ou trois de front, ce qui donne un sentiment de puissance. C'est un peu comme ces colonnes de fourmis qui avancent inexorablement et qui s'apprêteraient à encercler la capitale ukrainienne. Toujours sur les photos que l'on doit à la société américaine Maxar, spécialisée dans ce genre de clichés, on peut voir qu'il y a des camions militaires, certains sont espacés les uns des autres, d'autres non. On aperçoit aussi des armes d'artillerie. Bref, tout semble dire que la bataille pour la prise de Kiev approche, ce que confirment d'ailleurs les militaires ukrainiens. Autre image satellite qui renseigne sur l'avancée des Russes, c'est le prise à la frontière au nord avec la Biélorussie. Là encore, on peut y voir le déploiement de troupes, notamment des hélicoptères et des véhicules au sol. Tout cela se passe à peu près à 30 km de la frontière avec l'Ukraine.
Merci Nathanaël Charbonnier. Et nous partons pour Kiev. Valentin Dunade, vous êtes en direct de la capitale ukrainienne pour Inter. Valentin, est-ce qu'autour de vous on redoute un assaut russe après la diffusion des images de ce convoi ?
En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'information a été relayée par les principaux médias ukrainiens, mais aucune source officielle n'a confirmé ou infirmé cette information. Habituellement, la mairie de la ville, le ministère de la Défense communique, prépare les habitants à de potentielles attaques, mais pour l'instant, aucune information. Il y a des médias pro-russes qui expliquent que l'armée tente d'encercler la capitale. Ce qui est certain, c'est que les habitants se préparent depuis plusieurs jours, à vrai dire, à une nouvelle offensive russe. Ces dernières heures étaient plutôt calmes. Les sirènes d'alerte ont simplement retenti il y a 2 heures. Et ce calme relatif est interprété depuis hier comme un indice clair d'une nouvelle attaque de l'armée russe. Donc l'arrivée de ce convoi n'est pas une surprise. Il s'agira donc désormais d'observer dans les heures qui viennent si ce convoi progresse ou s'il reste cantonné aux abords de la capitale.
Valentin Dunat avec Arthur Gerbeau, envoyé spécial d'Inter en Ukraine. Et c'est sans doute la crainte d'un assaut imminent qui conduit la France à déménager à son tour son ambassade. Elle part pour Lviv, dans l'ouest du pays. Le ministre des Affaires étrangères espère que les Français encore présents à Kiev pourront la quitter dans les prochaines heures. Selon Jean-Yves Le Drian, il y a peut-être une opportunité possible par le sud de la ville.
Emmanuel Macron lui met en garde les militaires français.
Message solennel aux armées diffusé hier soir par l'Élysée, c'est rare. Le président s'adresse directement aux soldats, notamment pour les appeler à la vigilance. Pourtant, ils ne sont pas présents sur le terrain ukrainien. Alors comment interpréter ces propos, Marie-Pierre Véraud?
« Je sais pouvoir compter sur vous », une adresse aux armées assez rare. Dans un long texte rendu public hier soir, le président appelle ses armées à la vigilance, à la retenue face à de possibles interférences. Face à cette offensive russe, la plus grave, écrit-il, et la plus désinhibée des manifestations de puissance du régime russe depuis la fin de l'URSS. Les militaires français sont engagés dans le cadre de l'OTAN sur le front oriental, en Roumanie, en Estonie, en Pologne. Et à ce titre, ils peuvent être confrontés à des provocations russes. Il importe qu'elles n'entraînent pas de dérapage et de confrontation directe. D'autant que se profile une très délicate opération, la livraison d'armes à l'Ukraine. Moscou pourrait s'en saisir pour dénoncer une attaque de l'OTAN, une posture agressive face à laquelle il convient de conserver le plus grand calme. Un message aux armées donc, un message à Vladimir Poutine, dont le président français a senti la détermination, mais surtout l'enfermement dans une logique de confrontation. Un message enfin aux Français, auquel il rappelle son rôle de chef des armées, ce qui n'est pas inutile en période électorale.
Et Marie-Pierre Véraud l'évoquait à l'instant, s'ils ne sont pas en Ukraine, des soldats français sont bien mobilisés dans des pays limitrophes, comme la Roumanie, avec l'objectif de protéger la frontière. 250 chasseurs alpins d'Annecy sont sur le départ. Un saut dans l'inconnu, selon le lieutenant Clément du 27e bataillon de chasseurs alpins.
On y va prêt à tout. Comme c'est une ouverture de théâtre, contrairement aux OPEX classiques, on va dire, comme à Barkhane, où c'est des rotations sur des mandats qui sont prédéfinis et déjà prévus à l'avance. Là, on part dans l'inconnu, donc on ne sait pas si ça durera un mois et que d'un coup, il y aura la paix, ou si ça durera plus longtemps. Il y a à la fois de l'appréhension, parce que il y a toujours un peu d'appréhension quand on part dans le flou, comme ça. Mais cette appréhension, elle est maîtrisée par le fait que depuis qu'ils sont engagés, ils s'entraînent pour ça, ils sont prêts et ils feront face à la situation et rempliront les missions qu'on leur donne.
Le lieutenant Clément des chasseurs alpins de Crangevrier près d'Annecy, il répondait à France Bleu Pays de Savoie avant ce départ pour la Roumanie. La Roumanie où dans l'autre sens sont arrivés ces derniers jours des milliers de réfugiés ukrainiens. Parmi eux, Anastasia et sa fille de 8 ans. Elles ont passé la frontière avant-hier et depuis, la mère de famille est devenue interprète bénévole. Notre envoyée spéciale, Mathilde Dehimi, il l'a rencontré.
Anastasia se glisse dans la foule. Au téléphone, une famille perdue devant la douane. La jeune femme se précipite pour les retrouver. Une étreinte vaut mieux que des mots. Anastasia guide Yula et les enfants vers une tente au chaud où elles rempliront les formalités avant de monter dans un bus. Rien ne la distingue des autres bénévoles, sauf quand son téléphone sonne. Elle tremble, sa gorge se serre. Puis elle sourit. Cette fois, c'est sa cousine qui lui annonce qu'ils sont proches de la frontière. Mais il y a 2 jours, elle appelait pour lui annoncer la mort de son oncle.
Il se cachait dans le sous-sol avec sa famille, dans un petit village près de Donetsk. Mais c'est en territoire ukrainien. Les Russes envoyaient des roquettes sur les maisons. Alors il a décidé de sortir pour leur dire « Arrêtez de tirer !» Ils l'ont abattu.
Donetsk, ville séparatiste de l'Est, la famille d'Anastasia l'a fui en 2014 à cause des Russes. Son mari s'est engagé dans l'armée.
Il m'a promis qu'il ferait de son mieux pour nous protéger, protéger nos terres, de tout faire pour qu'on puisse rentrer chez nous au plus vite.
Une autre famille appelle. Anastasia se sent enfin utile. Elle espère cette nuit pouvoir enfin trouver le sommeil.
Mathilde Dehimi, envoyée spéciale de France Inter en Roumanie, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, plus de 500 000 personnes ont déjà fui l'Ukraine vers les pays voisins. La SNCF annonce la gratuité pour ses exilés sur tous ses trains grandes lignes, comme l'ont déjà fait avant elle d'autres compagnies ferroviaires en Europe. Et pour ceux qui veulent aider l'Ukraine financièrement, Kiev va notamment lancer un appel aux dons via les crypto-monnaies. Le gouvernement ukrainien compte beaucoup sur ces monnaies numériques comme arme de résistance économique alors que la devise nationale s'effondre. D'ailleurs, juste avant l'invasion russe, le Parlement ukrainien a voté un projet de loi légalisant leur usage. Mariam El-Kurdi.
Aucune banque centrale à leur tête, un usage sécurisé. En temps de guerre, les crypto-monnaies sont devenues en Ukraine une alternative aux billets de banque pour Philippe Erlin, économiste expert en monnaie numérique.
Juste après l'invasion, les gens se sont précipités pour faire des retraits de billets et évidemment très vite, ils sont tombés assez. Donc les gens doivent trouver d'autres solutions. Ça en fait partie.
Ça, c'est-à-dire les crypto-monnaies. Plus de 5 millions d'Ukrainiens les utilisent avec les bitcoins ou stablecoins, par exemple considérés comme plus stables car indexés sur le dollar. Les Ukrainiens peuvent faire leurs achats du quotidien.
Dans la situation où est l'Ukraine, où les banques sont fermées, vous allez voir un boulanger ou un boucher, vous lui dites je te paye en bitcoin, ou joue en TCR, en stablecoin du dollar, il va accepter. Et il sait que c'est de la monnaie, il pourra en disposer lui-même quand il veut pour payer ses fournisseurs. Face à l'urgence, c'est quelque chose qui fonctionne très bien.
Les crypto-monnaies ont aussi permis à l'Ukraine de récolter des dons rapidement pour soutenir l'armée ou l'aide humanitaire. N'importe quel citoyen du monde peut envoyer de l'argent aux Ukrainiens.
Vous commencez par acheter des bitcoins si vous n'en avez pas. Et ensuite, il suffit de copier-coller l'adresse qu'a publiée le gouvernement ukrainien. Et vous pouvez envoyer une partie de vos bitcoins directement sur l'adresse et ils le reçoivent en 10 minutes.
Depuis l'invasion russe, plus de 13 millions d'euros en crypto-monnaie ont déjà été récoltés par le gouvernement ukrainien et les ONG.
La Russie, elle, subit des pressions internationales de plus en plus fortes et de toute nature, économique surtout, mais aussi diplomatique. À l'ONU, en pleine session exceptionnelle de l'Assemblée générale, les États-Unis ordonnent l'expulsion de 12 diplomates russes auprès des Nations Unies. Ils sont accusés d'espionnage. L'isolement est aussi sportif et culturel. Après l'exclusion du mondial de foot, le pays est aussi banni des compétitions internationales de hockey sur glace et de rugby. Et les Russes ne pourront pas voir les prochains films Disney au cinéma. Les studios américains suspendent toutes les sorties prévues dans le pays.
France Inter, 8h11, Alexis Morel, c'est la dernière réforme sociale du quinquennat.
Le contrat engagement jeune entre en vigueur aujourd'hui pour les 16-25 ans. L'objectif, c'est de permettre à des jeunes peu qualifiés et passés jusque-là sous les radars, de raccrocher les wagons. Mais le gouvernement a revu l'ambition initiale à la baisse. On ne cible plus 1 million de jeunes, mais seulement 400 000 chaque année. Il y a ceux qui bénéficiaient de l'ancien dispositif, la garantie jeune, mais aussi des travailleurs précaires qui en étaient exclus. Le principe, une allocation mensuelle de 500 euros maximum, en contrepartie d'un accompagnement obligatoire. Mais dans les missions locales, on s'attend à une réorganisation plus qu'à une vraie révolution. Reportage à Nanterre, Claire Chaudière.
À 19 ans, Wanassa, sans emploi ni formation, est suivie par la mission locale de Nanterre. Elle sort d'un stage dans un grand magasin, mais la jeune fille a du mal à transformer l'essai et s'interroge. Elle a rendez-vous avec sa conseillère.
On va voir ce qu'on fait, Wanassa. Je ne sais pas trop où vous en êtes financièrement.
Il faut savoir que moi, j'habite chez mes parents et que je les aide pour les cours. Sauf que moi, après, il me reste peu pour passer mon permis. Je devais le passer il y a déjà un an, sauf que j'ai du mal à avancer. Il y a quand même le besoin.
Il est rapidement question du contrat engagement jeune. Les premiers seront signés ici dans les jours qui viennent, 497 euros d'allocation par mois, mais des contreparties importantes.
Le jeune s'engage à un certain nombre de démarches.
15 à 20 heures par semaine sur la durée de formation, de coaching, de stage, de tutorat ou d'accompagnement par une association pour les jeunes. Elle est plus en difficulté, explique la référente Françoise Bassette.
Des jeunes qui vivent avec une belle-mère qui l'humilie et puis qui le met dehors. Des jeunes qui ont perdu leurs parents. C'est du sur-mesure, c'est ce qui est demandé. C'est un accompagnement très fin.
Plusieurs bémols à ce stade. Certains conseillers craignent une avalanche de travail administratif pour justifier les fameuses heures d'engagement des jeunes. Quant au Conseil d'orientation des politiques jeunesse, il regrette que le projet ne soit pas plus abouti pour les jeunes très en rupture, point sur lequel le gouvernement dit continuer de travailler.
Claire Chaudière, la décrue des contaminations, le masque qui tombe, tout cela pourrait nous conduire à penser qu'on en a cette fois fini pour de bon avec le Covid. Rien n'est moins sûr. Un nouveau variant pourrait apparaître dans les prochains mois. Et dès maintenant, les autorités sanitaires traquent les cas de co-infection. Ces patients qui sont contaminés en même temps par Delta et Omicron. Pour la première fois, on a un chiffre en France, Sophie Becherel, près de 60 cas déjà repérés.
Dès le début de l'épidémie, différents variants ont circulé de manière concomitante. Il est alors arrivé que des personnes se retrouvent infectées en même temps par deux variants différents. En France, cela s'est passé entre Delta et Omicron, entre fin décembre et mi-janvier. Les virologues les plus expérimentés peuvent alors identifier les génomes des deux virus distincts. On appelle ça une co-infection et il arrive qu'elle débouche ensuite sur une recombinaison, c'est-à-dire un mélange du matériel génétique des deux variants, explique Bruno Lina, virologue aux Hospices Civils de Lyon.
Sous certaines conditions, la personne infectée avec ces deux virus devient en capacité de fabriquer un virus hybride, c'est-à-dire qu'il va fabriquer un virus qui va prendre une partie du génome du virus numéro 1 et la partie complémentaire du génome du virus numéro 2. Et en fabriquant ce virus hybride, il fabrique ce qu'on appelle un recombinant et ça devient un nouveau virus.
Capable ensuite de se transmettre, ce nouveau variant n'est pas forcément plus contagieux ou plus dangereux. Les cas français sont en cours d'investigation, mais il importe de les suivre car ce phénomène de recombinaison déjà connu chez d'autres virus a parfois conduit à des résurgences dans certaines maladies. C'est le cas par exemple pour la poliomyélite.
À Nantes, le mystère des piqûres en discothèque. 4 nouveaux signalements sont parvenus à la police ce week-end, après déjà une dizaine recensée en 2 semaines. Des jeunes femmes, essentiellement, qui disent avoir été piquées en pleine soirée, puis s'être senties mal sur la piste de danse. Le procureur appelle à la plus grande vigilance dans l'attente des résultats des prélèvements sanguins.
Qui était réellement Pétain? De quoi est-il le nom?
C'est un podcast événement que nous vous présentons ce matin. Le fantôme de Philippe Pétain. Une enquête en 10 épisodes, signée Philippe Collin, accompagné d'un livre signé par 12 historiens pour revenir sur la trajectoire de Pétain, de la Première Guerre mondiale à Vichy, pour analyser aussi ce que nous dit son retour dans les débats récents, 70 ans après sa mort. En voici un petit extrait.
Mesdames, messieurs, le maréchal Pétain vous parle.
Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France.
Le 17 juin 1940, il est midi, l'heure est grave. La France s'est effondrée et Philippe Pétain accède au pouvoir. C'est son discours le plus célèbre, tristement célèbre.
Sûr de l'affection de notre admirable armée, qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires, contre un ennemi supérieur en nombre et en armes.
Ce fut plus qu'un discours, ce fut un acte de celui qui fut considéré comme le plus humain de nos chefs pendant la Première Guerre mondiale.
Voilà un extrait du Fantôme de Pétain, podcast de Philippe Collin, réalisé par Violaine Ballet, disponible donc dès maintenant sur l'application France Inter. Et c'est donc aussi un livre aux éditions Flammarion.
Alexis Morel pour le journal. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Stéphanie, le ciel sans nuages.
Et le soleil est pris en sandwich entre une perturbation qui s'enfonce au nord-ouest et une goutte froide qui stagne au sud-est. La journée est donc émaillée de pluie entre les pays de la Loire, l'ouest des Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne. Ces pluies seront généralement intermittentes mais parfois assez marquées, notamment sur le Finistère. À l'avant de cette perturbation entre la Nouvelle-Aquitaine, le bassin parisien et le nord de la Seine, le ciel se drape d'un aspect laiteux. Le voile nuageux sera moins épais entre les Pyrénées et le nord-est. Et puis vers le sud-est, les éclaircies seront belles mais le vent, par rafale de 70-80 km par heure, va apporter des lots de nuages qui couvriront les côtes jusqu'au Roussillon cet après-midi. De la neige est même prévue sur les massifs corses des 500 mètres. Seule la région Rhône-Alpes profitera d'un ensoleillement sans encombre.
Et les températures sont assez stables?
Oui, cet après-midi, on aura le droit à une belle douceur avec une petite pointe dans le sud-ouest. Il fera 9 degrés à Lille, 12 à Paris, 13 à Nantes et Ajaccio, 17 à Montauban.
Merci Stéphanie, à tout à l'heure. 8h18, Géopolitique.